Chapitre 15. Je n'allais pas au bain de minuit de Tiréna. Spencer Reynolds non plus. Je le vis en grande conversation avec Sudette Shire. J'ignore si Monseigneur Edward se laissa convaincre par Tiréna. Le banquet n'était pas encore tout à fait fini. Le comité du Fonds social se mit à faire discours sur discours, et les sénateurs commençaient à s'impatienter lorsque Leigh Hunt vint chuchoter à mon oreille que le groupe de la présidente était sur le point de s'en aller et que j'étais prié de le suivre. Il était un peu moins de 23 heures, heure standard du Retz. Je pensais que nous allions rentrer à la maison du gouvernement, mais lorsque je franchis le portail monopasse, j'étais le dernier à l'exception de la garde prétorienne qui assurait nos arrières, je fus surpris d'émerger dans un corridor de pierre où s'ouvrait une série de fenêtres donnant sur un lever de soleil martien. Techniquement, Mars ne fait pas partie du Retz. La plus vieille colonie extraterrestre de l'humanité a été délibérément rendue difficile à atteindre. Les pèlerins gnostiques zen qui veulent se rendre au rocher du Maître dans le bassin de Hellas sont obligés de se distransporter d'abord jusqu'à la station du système central, puis de prendre la navette qui part de Ganymède ou d'Europa pour aller sur Mars. Cela ne représente qu'un délai supplémentaire de quelques heures, mais pour une société où tout se trouve littéralement à 10 pas, cela équivaut à une aventure réservée à ceux qui ont le sens du sacrifice. Au demeurant, à part quelques historiens et professionnels de la culture du cactus à des fins vinicoles, il y a très peu de raisons d'être attiré par Mars. Avec le déclin graduel du gnosticisme zen au cours de ce dernier siècle, même les voyages des pèlerins se sont espacés. Plus personne ne s'intéresse à Mars. Plus personne, excepté la Force. Bien que ses locaux administratifs se trouvent sur TC carré et que ses bases soient réparties dans tout le Retz et sur tous les protectorats, Mars demeure le véritable centre de l'organisation militaire, avec pour cœur l'école de commandement militaire d'Olympus. Un petit groupe de personnalités militaires attendait les politiques. Tandis qu'ils tournaient les uns autour des autres comme deux galaxies qui entrent en collision, je m'avançais vers l'une des fenêtres pour regarder à l'extérieur. Le corridor faisait partie d'un complexe creusé dans l'une des crêtes supérieures du mont Olympus. De l'endroit où nous étions, à plus de 15 000 mètres d'altitude, on avait l'impression que le regard embrassait la moitié de la planète. De ce point d'observation, Mars tout entière était un vaste volcan bouclier, et la perspective réduisait les routes, la vieille cité au pied de la falaise, les forêts et les taudis du plateau de Tarsis, à de simples pattes de mouche au milieu d'un paysage rouge qui semblait inchangé depuis que les hommes avaient posé le pied sur ce monde, l'avaient revendiqué au nom d'une nation nommée Japon et en avaient fait une ou deux photos. Je contemplais le lever du petit soleil, émerveillé à l'idée que c'était le soleil, celui de nos origines, et admirant les jeux de lumière incroyables sur les nuages qui surgissaient des abîmes obscurs pour grimper à l'assaut de la paroi vertigineuse, lorsque Leigh Hunt s'approcha de moi pour me dire « La présidente s'entretiendra avec vous après la réunion ». Il me remit deux carnets d'esquisses que l'un de ses collaborateurs avait apportés de la maison du gouvernement, en ajoutant « J'espère que vous êtes bien conscient que tout ce que vous verrez et entendrez à cette réunion est hautement confidentiel. » Je fis comme si ce n'était pas une question. De larges portes de bronze s'ouvrirent dans les parois de pierre. Des lumières s'allumèrent le long d'un plan incliné et d'un escalier recouvert de moquettes feutrées et conduisant à la table du conseil de guerre, au centre d'un vaste espace noir qui aurait pu être un auditorium entouré de ténèbres absolues s'il n'y avait pas eu cet îlot d'illumination. Des huissiers s'avancèrent pour nous montrer la voie et nous avancer nos sièges, puis s'effacèrent dans l'obscurité. Non sans réticence, je tournai le dos au lever de soleil et rejoignis les autres dans la fosse. Le général Morpurgo et une troïka de gradés de la force firent en personne le point de la situation militaire. Les diagrammes étaient à des années-lumière des rudimentaires panneaux et holos de la maison du gouvernement. Nous nous tenions au milieu d'un vaste espace capable de contenir 8 000 élèves officiers et leur encadrement, si nécessaire, mais l'obscurité qui nous entourait était à présent principalement occupée par des holos et des diagrammes de qualité oméga, chacun de la taille d'un terrain de freeball. C'était, d'une certaine manière, effrayant, mais pas moins que le contenu des informations militaires.
« Nous sommes en train de perdre le système d'Hyperion », conclut Morpurgo. « Au mieux, nous pouvons espérer contenir les 5 extro à une quinzaine d'UA de la sphère de singularité distance, en nous attendant à être constamment l'objet d'attaques ponctuelles de harcèlement de la part de leurs petites unités de combat. Au pire, nous devrons nous replier sur des positions défensives afin d'évacuer la flotte et les citoyens de l'hégémonie, ce qui signifie que nous laisserons les extro s'emparer d'Hyperion. »
« Et ce coup décisif que vous nous aviez promis ?» demanda le sénateur Kolchev près de la tête de la table en forme de losange.
« Je croyais que les saints allaient être démantelés. »
Morpurgo se racla la gorge en se tournant vers l'amiral Nachita qui se leva. L'uniforme noir du commandant de la flotte spatiale donnait l'illusion que son visage renfrogné flottait au milieu de l'obscurité. Je ressentis une impression de déjà-vu devant ce spectacle, mais je me tournai vers Meina Gladstone, à présent éclairée par les cartes lumineuses et les diagrammes multicolores qui flottaient au-dessus de nous, comme les versions holospectrales de la fameuse épée de Damoclès, et je commençai un nouveau croquis d'elle. J'avais abandonné mes carnets d'esquisses et me servais maintenant d'un crayon lumineux et d'une feuille électronique souple.
Tout d'abord, nos renseignements sur les essaims étaient nécessairement limités,
fit l'amiral Nachita tandis que les diagrammes se recomposaient.
Les sondes de reconnaissance et les éclaireurs longue distance ont été incapables de nous dévoiler la véritable nature des unités de migration extro. Le résultat est que nous avons gravement sous-estimé la puissance de combat de cet essaim. Nos efforts pour percer les défenses extro en employant uniquement des chasseurs et des vaisseaux torches à long rayon d'action n'ont pas été aussi fructueux que nous l'espérions. En outre, l'obligation de maintenir un périmètre défensif de cette importance autour du système d'Hyperion a tellement accaparé nos deux unités d'intervention qu'il est devenu impossible d'affecter un nombre suffisant de vaisseaux à une opération offensive d'envergure.
Amiral, interrompit Kolchev, si je vous comprends bien, vous nous dites que vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de vaisseaux pour repousser ou détruire la flotte extro qui attaque en ce moment le système d'Hyperion. C'est bien cela. Nachita regarda froidement le sénateur, et cela me fit songer aux estampes représentant un samouraï quelques secondes avant l'instant où il tire son épée du fourreau pour tuer.
« C'est tout à fait cela, sénateur Kolchev. Pourtant, lors de précédentes réunions de ce genre, remontant à peine à une semaine standard, vous nous aviez bien affirmé que les deux flottes suffiraient à protéger Hyperion de l'invasion et de la destruction. » Et aussi apporter un coup mortel à l'ennemi. Que s'est-il donc passé entre-temps, amiral ?
Nachita se redressa de toute sa hauteur, qui dépassait celle de Morpurgo, mais demeurait inférieure à la moyenne du Retz, et se tourna vers Gladstone pour dire
« Madame la Présidente, j'ai déjà exposé les raisons qui demandent une révision de nos plans de bataille. Dois-je les répéter ?»
Meina Gladstone avait les coudes sur la table. Sa main droite entourait son menton, deux doigts sur la joue, deux sous la mâchoire et le pouce le long du maxillaire, dans une attitude de lassitude attentive.
« Amiral, dit-elle d'une voix douce, tout en reconnaissant que la question du sénateur Kolchev est pertinente, je pense que l'exposé de la situation que vous nous avez fait ce soir et un peu plus tôt dans la journée y répond. Nous nous sommes trompés, Gabriel. »
ajouta-t-elle en se tournant vers Kolchev.
« Avec les effectifs de la force actuellement engagée, nous ne pouvons espérer qu'un match nul. Les extros sont plus agressifs, plus coriaces et plus nombreux que nous le pensions. « Amiral, »
fit-elle en tournant de nouveau son regard là vers Nachita.
« Combien de vaisseaux de combat supplémentaires vous faudrait-il ? »
Nachita prit une inspiration, visiblement désarçonnée par cette question qu'il n'attendait pas si tôt. Il regarda Morpurgo et les autres chefs d'état-major, puis croisa les mains sur ses genoux avec l'air d'un croque-mort.
« 200, au moins, » dit-il. « C'est vraiment un minimum. »
Un frisson parcourut la salle. Je levai les yeux de mon croquis. Tout le monde était en train de chuchoter ou de changer de position, à l'exception de Gladstone. Je mis une ou deux secondes à comprendre. L'ensemble des vaisseaux de combat de la force ne dépassait pas 600 unités. Chacune était, bien sûr, horriblement coûteuse. peu d'économies planétaires pouvaient s'offrir le luxe de posséder un ou plusieurs vaisseaux de guerre interstellaires, et même une poignée de vaisseaux torches équipés de la propulsion Hawking pouvait réduire une planète coloniale à la faillite. Chaque unité possédait une puissance fantastique. Un seul gros porteur était capable de détruire un monde. Une flotte de croiseurs et de vaisseaux de spin pouvait anéantir un soleil. Les vaisseaux de l'hégémonie déjà massés dans le système d'Hyperion auraient pu vraisemblablement, si la Force les avait fait manœuvrer à travers les larges portes d'Istrance dont elle disposait, détruire la plus grande partie des systèmes stellaires du Retz. Il avait fallu moins de 50 vaisseaux du type demandé par Nachita pour détruire la flotte de Glennon Height un siècle plus tôt et pour mater définitivement la rébellion. Mais le véritable problème posé par la demande de Nachita était qu'il aurait fallu concentrer les deux tiers de toute la flotte de guerre hégémonienne dans le seul système d'Hyperion. Il y avait de quoi angoisser les politiciens et les décideurs présents dans cette salle. Le sénateur Richaud, représentante du vecteur Renaissance, s'éclaircit la voix pour demander «
Nous est-il déjà arrivé de concentrer de telles forces dans le passé, amiral ?»
La tête de Nachita pivota avec autant de précision que si elle était montée sur des roulements à billes. Son expression renfrognée ne changea pas.
« Nous n'avons jamais engagé nos forces dans un conflit aussi grave pour l'avenir de l'hégémonie, sénateur Richaud, »
répliqua-t-il.
« J'avais déjà très bien compris cela, » dit-elle. « Mais ma question concerne plutôt l'impact éventuel de cet engagement sur nos défenses dans les autres régions du Retz. Ne sommes-nous pas en train de prendre de terribles risques ?»
Nachita émit un grognement. Les diagrammes qui occupaient le vaste espace derrière lui se refondirent, offrant le spectacle étonnant d'une voie lactée vue d'un point situé bien au-dessus du plan de l'elliptique. Puis l'angle de vision changea, et nous eûmes l'impression de nous précipiter à une vitesse vertigineuse vers l'un des bras spiralés, jusqu'au moment où le treillis bleu du réseau d'Istrance devint visible. C'était l'hégémonie, un noyau doré aux contours irréguliers, aux spires et aux pseudopodes qui s'étendaient vers le nimbe gris des mondes du protectorat. Le Retz semblait avoir une structure aléatoire et paraissait écrasé par la taille gigantesque de la galaxie. Les deux impressions reflétaient bien la réalité. L'affichage changea encore, et le Retz et les mondes coloniaux, entourés de quelques centaines d'étoiles destinées à fournir une perspective, devinrent l'univers.
« Voici la position de nos unités à l'heure actuelle !»
expliqua Nachita. Au milieu du vert et de l'or, plusieurs centaines de points orange se mirent à briller intensément. La concentration la plus dense se trouvait autour d'un protectorat lointain que je mis quelques secondes à identifier comme étant Hyperion.
« Vous voyez ici la position des essaims extra, selon les derniers relevés dont nous disposons !»
continua l'amiral. Une douzaine de lignes rouges apparurent, des vecteurs et des traînées Doppler de décalage vers le bleu, indiquant la direction des déplacements. Même à cette échelle, aucun vecteur extra ne semblait entrer en intersection avec l'espace hégémonien, à l'exception du gros essaim qui paraissait incurver sa trajectoire vers le système d'Hyperion. Je remarquais que les déploiements spatiaux de la Force reproduisaient la plupart du temps les vecteurs des essaims, à part quelques concentrations à proximité des bases et des mondes à problèmes tels que Brescia, Alliance Maui et Comriad.
Amiral,
déclara Gladstone, coupant court à toute description de ces déploiements.
Je suppose que vous avez tenu compte, dans vos estimations, du temps de déplacement de vos unités pour le cas où une menace apparaîtrait dans un autre secteur.
La figure renfrognée de Nachita esquissa ce qui aurait pu passer pour un sourire. Il répondit avec un rien de condescendance dans la voix.
Bien sûr, Madame la Présidente. Si vous voulez bien regarder plus attentivement l'essaim le plus proche de celui qui menace Hyperion.
L'affichage grossit et se déplaça pour se concentrer sur les vecteurs rouges qui surmontaient un nuage doré situé, d'après mes estimations, à peu près dans la région d'Evans Gate, du Bosquet de Dieu et de Mare Infinitus. À cette échelle, la menace extra semblait vraiment lointaine.
Nos estimations sur la migration de cet essaim reposent sur les traînées Hawking captées par des stations d'écoute situées à l'intérieur et à l'extérieur du Retz,
expliqua-t-il.
En outre, nos sondes lointaines vérifient assez fréquemment la taille et la direction de chaque essaim.
Qu'entendez-vous par assez fréquemment, amiral ? demanda le sénateur Kolchev.
« Tous les 3 ou 4 ans au moins !»
répliqua sèchement Nachita.
« N'oubliez pas que ces distances représentent des mois de voyage, même à la vitesse des vaisseaux de spin, et que le déficit de temps, de notre point de vue, peut atteindre une douzaine d'années. »
Avec ces années de décalage entre les observations directes, insista le sénateur, « comment faites-vous pour connaître la position des essaims à un moment précis ?»«
Les traînées Hawking ne mentent pas, sénateur, »
fit l'amiral d'une voix absolument neutre.
Il est absolument impossible de simuler le sillage de distorsion Hawking. Ce que vous voyez ici, c'est la position en temps réel de plusieurs centaines, ou dans le cas des gros essaims, plusieurs milliers, d'unités de propulsion en mouvement. Comme dans le cas des mégatransmissions, le déficit de temps est nul.
Je vois, fit Kolchev d'une voix aussi glacée que celle de l'amiral. Mais supposez que les essaims voyagent à des vitesses inférieures à celles des vaisseaux de spin. Pour la première fois, Nachita nous fit un vrai sourire.
Inférieures aux vitesses hyperluminiques, sénateur ?
C'est cela. Je vis Morpurgo et quelques autres militaires secouer la tête ou dissimuler un sourire. Seul le jeune capitaine de frégate William Ajuntali était penché en avant, la mine sérieuse et attentive.
« À des vitesses infraluminiques, »
murmura l'amiral Nachita d'un air impassible,
« nous laisserons le soin à nos arrière-arrière-petits-enfants de prévenir leurs petits-enfants d'une menace d'invasion. »
Kolchev ne se démonta pas pour si peu. Il se leva et indiqua l'endroit où l'essaim le plus proche incurvait sa trajectoire au-dessus d'Evans Gate pour s'éloigner de l'hégémonie.
« Et si cet essaim-là s'approchait de nous sans utiliser la propulsion Hawking ?»
Nachita soupira, ostensiblement agacé de voir que la discussion dérivait vers des futilités sans rapport avec le sujet.
« Je vous assure, sénateur, que si les propulseurs de cet essaim s'arrêtaient en ce moment même pour se diriger vers le Retz, il ne faudrait pas moins d'eux. »
Il plissa les yeux tandis qu'il consultait ses implants et ses liaisons com.
« 230 années standard pour qu'ils parviennent à nos frontières. Ce n'est donc pas un facteur à prendre en considération pour la décision qui nous intéresse. »
Mayna Gladstone se pencha en avant et tous les regards se tournèrent vers elle. J'enregistrais mon dessin dans la mémoire de la feuille électronique et en commençais un nouveau.
« Amiral. » Il me semble que la véritable question qui nous occupe actuellement est, d'une part, la nature sans précédent de la concentration de nos forces au voisinage d'Hyperion, et d'autre part, le danger qu'il y a à mettre tous ses œufs dans le même panier.
Un murmure amusé se propagea autour de la table. Gladstone était connu pour ses aphorismes, anecdotes et clichés si anciens et si oubliés qu'ils en paraissaient tout neufs. Il semblait bien que ce fût le cas pour celui-là.
« Sommes-nous en train de mettre tous nos œufs dans le même panier ?»
demanda-t-elle. Nachita s'avança vers la table et y posa les deux mains à plat. Ce geste soulignait la personnalité hors du commun de ce petit homme, qui était capable d'imposer sans effort son autorité aux autres.
« Je ne le pense vraiment pas, »
dit-il. Sans se tourner, il fit un geste en direction de l'affichage derrière lui et au-dessus de sa tête.
Les essaims les plus proches ne peuvent en aucun cas atteindre l'espace hégémonien avant un délai de 2 mois en propulsion Hawking. Cela représente 3 années de notre temps. Nos forces spatiales disposées autour d'Hyperion, à supposer qu'elles soient largement déployées et en position de combat, mettraient moins de 5 heures pour se replier et se distranslater en n'importe quel point du Retz.
Cela ne peut pas concerner les flottes stationnées en dehors du Retz ?
Intervint le sénateur Richaud.
Nous ne pouvons pas laisser les colonies sans protection.
Nachita fit un geste vague.
Les 200 vaisseaux de renfort destinés à rendre décisive la campagne d'Hyperion se trouvent tous actuellement à l'intérieur du Retz, où sont des portiers disposant d'équipements distrans. Aucune flotte affectée à la défense des colonies ne sera mise à contribution.
« Mais si la porte distrans d'Hyperion était endommagée ou capturée par les extros ?»
demanda Gladstone en secouant la tête. À en juger par les murmures et l'agitation que ces paroles provoquèrent parmi les civils assemblés autour de la table, Je compris que Gladstone venait de mettre le doigt sur un point crucial. Nachita hocha la tête d'un air presque satisfait et fit quelques pas en arrière en direction de la petite estrade, comme si c'était là la remarque qu'il attendait depuis le début et qui marquait la fin des digressions irritantes.
« Excellente question, » dit-il. « Nous l'avons déjà évoquée lors de nos précédentes réunions, mais je vais la traiter un peu plus en détail. Tout d'abord, nous disposons d'une certaine marge de sécurité dans nos équipements d'Istrance. Nous avons actuellement 2 vaisseaux portiers dans le système, et nous en enverrons 3 autres en même temps que les renforts. Il y a très peu de chances pour que ces 5 vaisseaux soient détruits, surtout si l'on considère que les renforts nous donneront une capacité défensive considérable. Deuxièmement, il n'y a absolument aucune chance pour que les extros s'emparent de l'un de ces vaisseaux intacts et l'utilisent pour envahir le Retz. Chaque bâtiment et même chaque individu qui transite par une porte de la force doit être préalablement identifié par des microtranspondeurs codés absolument inviolables et quotidiennement remis à jour. Les extros ne pourraient-ils pas déchiffrer ces codes et les remplacer par d'autres ? Demanda le sénateur Kolchev. Impossible, dit Nachita en faisant les 100 pas sur l'estrade, les mains croisées derrière le dos. Les codes sont changés chaque jour par Mégatrans à partir du QG rétien de la Force, et, pardonnez-moi, intervins-je, moi-même surpris d'entendre ma voix dans cette assemblée, mais j'ai fait un bref séjour dans le système d'Hyperion ce matin même, et je n'ai pas eu conscience d'avoir utilisé un code. Les regards se tournèrent vers moi. L'amiral Nachita, de nouveau, donna l'impression d'un hibou dont la tête aurait pivoté sur des roulements à billes sans friction. « Soyez pourtant assurés, H. Severn, me dit-il, que H. Hunt et vous avez reçu un code au moyen de laser infrarouge discrètement et sans que vous ressentiez quoi que ce soit avant chacun de vos passages d'Istrance. »
Je hochai la tête, étonné qu'il se souvienne de mon nom, jusqu'au moment où je me rappelais qu'il avait lui aussi des implants.
« Troisièmement, » continua Nachita comme si je ne l'avais jamais interrompu, « en supposant que l'impossible se produise et que les extros anéantissent nos défenses, s'emparent d'une porte d'Istrance intacte, court-circuitent nos codes de protection et fassent fonctionner un appareillage complexe auquel ils ne connaissent rien et dont nous leur refusons la technologie depuis plus de 4 siècles. Même en supposant tout cela, leurs efforts ne serviraient à rien. » Car tous les mouvements militaires à destination d'Hyperion transitent obligatoirement par la base de Madieu.
Par où ?
Demandèrent plusieurs voix. Je n'avais jamais entendu parler de cette planète qu'à travers le récit où Brown Lamia racontait la mort de son client. Nachita prononçait, comme elle, Madieu.
Par Madieu ?
Répéta l'amiral en souriant maintenant pour de bon d'un étrange sourire de petit garçon.
« Ne cherchez pas dans vos persocs, mesdames et messieurs. Le système de Madieu est un système noir qui ne se trouve ni dans les répertoires ni dans les annuaires d'Istrance civile. Nous le réservons précisément à ce genre d'usage. Il ne possède qu'une seule planète habitable qui ne sert que pour l'extraction minière et pour nos bases. Madieu est notre ultime position de repli. Si les extros réussissaient l'impossible et enfonçaient nos défenses et nos portes d'Istrance dans le système d'Hyperion, le seul endroit où il pourrait aller ensuite serait Madieu, où une considérable puissance de feu automatique attend tout ce qui chercherait à passer. Même en imaginant l'impossible au carré, c'est-à-dire la survie de leur flotte jusqu'à l'intérieur du système de Madieu, les liaisons d'Istrance avec l'extérieur s'autodétruiraient et leur vaisseau serait bloqué à des années de distance du Retz.
« D'accord, » fit remarquer le sénateur Richaud. « Mais les nôtres aussi ?» Les 2/3 de notre flotte seraient immobilisés dans le système d'Hyperion.
C'est vrai,
reconnut l'amiral.
Les chefs d'état-major et moi, nous avons soigneusement et longuement pesé les conséquences éventuelles d'un tel événement, statistiquement improbable, pour ne pas dire tout à fait impossible. Nous pensons que le risque est acceptable. Si l'impossible devait se produire, nous aurions encore 200 vaisseaux en réserve pour défendre le Retz. En mettant les choses au pis, nous aurons perdu Hyperion après avoir porté aux extros un coup terrible qui les dissuaderait certainement de toute agression future. Mais telle n'est pas l'issue à laquelle nous nous attendons. En envoyant rapidement sur place un renfort de 200 vaisseaux dans les 8 heures standards qui viennent, nous avons l'assurance à 99% de nos prévisionnistes et ceux de l'Assemblée consultative des IA
que l'essaim extra qui nous attaque sera totalement détruit avec des pertes négligeables de notre côté. »
Mayna Gladstone se tourna vers le conseiller Albedo. Sous cet éclairage tamisé, la projection était parfaite.
« Je ne savais pas, lui dit-elle, que la question avait été posée à l'Assemblée consultative. Pensez-vous que ce chiffre de 99% soit fiable ?»
Albedo lui sourit.
« Tout à fait fiable, madame. Le facteur de probabilité était de 99,962,794%. »
Son sourire s'élargit.
Assez rassurant pour mettre momentanément tous les œufs dans le même panier, ne croyez-vous pas ?
Gladstone ne lui rendit pas son sourire.
« Amiral, demanda-t-elle, combien de temps pensez-vous que les combats dureront après l'arrivée des renforts ?»«
Une semaine standard, H-présidente, au maximum. »
Le sourcil gauche de Gladstone se souleva légèrement.
« Si peu de temps ?»«
Oui, madame. »
« Général Morpurgo, qu'en pense la force ?»«
Nous sommes d'accord, H-présidente. Il est urgent d'acheminer des renforts. 100 000 marines et fantassins seront transportés sur les lieux pour nettoyer les restes de l'essaim. »
« En 7 jours standard ou moins ?»«
Oui. »
« Amiral Singh ?»«
C'est absolument nécessaire, H-présidente. »
Général Van Zeit ?
Un par un, les chefs d'état-major et les militaires présents durent donner leur avis. Même le commandant de l'école d'Olympus gonfla la poitrine quand il fut consulté. Tout le monde conseilla l'envoi de renforts.
« Capitaine Lee ? »
Tous les regards se tournèrent vers le jeune capitaine de frégate. Je remarquai un certain raidissement et quelques froncements de sourcils parmi les militaires de haut grade, et compris que Lee était ici sur invitation de la présidente et non par la grâce de ses supérieurs. Je me souvins d'une remarque que l'on prêtait à Gladstone à propos du capitaine Lee, capable de faire preuve de l'intelligence et de l'esprit d'initiative qui manquait parfois aux responsables de la force. Je soupçonnais sa carrière d'être bien compromise par sa présence ici ce soir. Le capitaine de frégate William Ajunta Lee changea nerveusement de position sur son siège.
« Pardonnez-moi, Madame la Présidente, mais je ne suis qu'un jeune officier de marine, et je ne me sens pas qualifié pour donner mon avis sur une question stratégique de cette importance. »
Gladstone ne sourit pas. Son hochement de tête fut presque imperceptible.
« J'apprécie votre position, capitaine. Je suis sûr que vos supérieurs ici présents l'apprécient aussi. Cependant, j'aimerais tout de même que vous nous fassiez part de votre opinion. »
Lee se redressa sur sa chaise. L'espace d'un instant, on put lire dans son regard à la fois le désespoir et la conviction d'un petit animal pris dans les mâchoires d'un piège.
« Puisque vous me le demandez, Madame la Présidente, je dois dire que mon instinct, et il s'agit uniquement d'instinct, car je suis profondément ignorant de toute notre tactique interstellaire, va à l'encontre de cet acheminement de renfort. »
Il prit une profonde inspiration.
« Il s'agit d'une opinion purement militaire, Madame la Présidente. » J'ignore les tenants et les aboutissants politiques de la défense du système d'Hyperion.
Gladstone se pencha en avant.
D'un point de vue purement militaire, capitaine, pouvons-nous savoir pour quelles raisons vous vous opposez à ces renforts ?
De ma place, une demi-table et plus loin, je sentis presque physiquement l'impact des regards de tous ces militaires, braqués comme un de ces lasers d'un million de joules, utilisé pour bombarder des sphères de deutérium-tritium dans un ancien réacteur à fusion à confinement inertiel. Je fus même étonné de ne pas le voir s'affaisser, imploser, s'embraser et fondre sous nos yeux.
« D'un point de vue militaire,
murmura-t-il d'une voix calme malgré son regard désespéré,
les deux erreurs les plus fatales que l'on puisse commettre sont la division des forces et, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, le fait de mettre tous les œufs dans le même panier. Sans compter que, dans le cas présent, il ne s'agit même pas de notre propre panier. »
Gladstone hocha la tête et se laissa aller en arrière dans son fauteuil, les mains jointes par le bout des doigts sous son menton.
« Capitaine !»
cracha littéralement le général Morpurgo.
« Maintenant que vous nous avez fait profiter de vos conseils, pouvons-nous vous demander si vous avez déjà participé à une bataille spatiale ?»
« Non, mon général. »«
Avez-vous reçu une formation vous préparant à une telle bataille, capitaine ? »
Hormis les cours de base de l'école de commandement militaire d'Olympus en histoire, non, mon général.
Avez-vous déjà participé à la préparation stratégique d'une bataille au-dessus du niveau de... Combien de vaisseaux de surface avez-vous commandé sur Alliance Maui, capitaine ?
Un seul, mon général.
Un seul ?
Répéta Morpurgo dans un souffle.
Et c'était un gros bâtiment, capitaine ?
Pas très gros, mon général.
Ce commandement vous a-t-il été attribué par la voie normale ou en raison des vicissitudes de la guerre ?
Le commandant de bord a été tué, mon général. J'ai pris sa place en tant qu'officier le plus gradé à bord. Nous étions dans la phase finale de l'offensive et...
Ce sera tout, capitaine.
Morpurgo tourna le dos au héros de la flotte et s'adressa à la présidente.
Désirez-vous que nous votions de nouveau, madame ?
Elle secoua négativement la tête. Le sénateur Kolchev se racla la gorge pour dire
« Le cabinet devrait peut-être en débattre à huis clos à la maison du gouvernement. Inutile !»
coupa Gladstone.
« J'ai pris ma décision. Amiral Singh, vous êtes autorisé à acheminer en renfort dans le système d'Hyperion autant d'unités de la flotte que les chefs d'état-major et vous le jugerez utile. »
« Très bien, H-présidente.
Amiral Nashita. » J'attends l'issue positive des combats au plus tard 8 jours après l'acheminement des renforts. Mesdames et messieurs, je ne saurais insister assez sur l'importance que revêtent pour nous le contrôle d'Hyperion et la suppression, une fois pour toutes, de la menace extro. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Elle se leva et s'éloigna aussitôt vers le plan incliné plongé dans l'obscurité. Il était près de 4 heures du matin, dans le RET, heure de Tau Ceti centrale, quand Hunt vint frapper doucement à ma porte. J'essayais de lutter contre la fatigue depuis 3 heures que nous étions rentrés, et je venais de décider que Gladstone m'avait oublié et que je pouvais m'abandonner au sommeil lorsque Hunt arriva.
« Dans le jardin, » me dit-il, « et rentrez votre chemise pour l'amour du ciel. »
Mes chaussures crissèrent doucement sur le fin gravier de l'allée lorsque je la remontais dans l'obscurité, à peine estompée par les lanternes et les globes bioluminescents. Les étoiles n'étaient pas visibles dans le ciel de TC carré, à cause du halo de l'agglomération interminable, mais les lumières en mouvement des habitations orbitales traversaient le ciel comme une ronde sans fin de lucioles. Gladstone était assise sur le banc de fer près du pont.
« H.C. Verne, » me dit-elle d'une voix faible. « Merci d'être venu me rejoindre. Pardonnez-moi de vous faire veiller si tard. La réunion du cabinet vient de s'achever. »
Je ne répondis pas et demeurai debout.
« Je voulais vous demander vos impressions sur votre visite de ce matin sur Hyperion, » me dit-elle. « Hier matin, plutôt, »
rectifia-t-elle avec un petit rire. Je me demandais ce qu'elle voulait savoir au juste. Je me dis qu'elle devait avoir un appétit insatiable pour les données de toutes sortes, même quand elles paraissaient sans rapport avec le sujet.
J'ai rencontré quelqu'un.
Ah ? Le docteur Melian Arundes. C'est...
Un ami de la fille de Sol Weintraub,
acheva Gladstone.
L'enfant qui grandit à l'envers. Avez-vous des nouvelles sur son état ?
Pas vraiment. Je n'ai pas dormi beaucoup aujourd'hui. Et mes rêves ont été fragmentés.
Est-il sorti quelque chose de votre rencontre avec le docteur Arundes ?
Je me frottais le menton d'un doigt soudain glacé. Son équipe de recherche attend depuis des mois dans la capitale. Elle représente peut-être notre seul espoir de comprendre ce qui se passe autour des tombeaux et avec le Gritch.
Selon nos prévisionnistes, il est extrêmement important que les pèlerins soient livrés à eux-mêmes jusqu'au bout.
Je voyais mal le visage de la présidente, dont le regard semblait fixé dans la pénombre, sur un point situé du côté du cours d'eau. Je sentis soudain une inexplicable colère monter en moi.
« Le père Hoyt est déjà allé jusqu'au bout !»
éclatai-je avec plus d'agressivité que je n'aurais voulu en montrer.
« Ils auraient pu le sauver si le vaisseau du consul avait été au rendez-vous. Arundes et son équipe pourraient maintenant sauver le bébé, bien qu'il ne dispose plus que de quelques jours. »
« Même pas 3 jours, »
murmura Gladstone.
« Et c'est tout ? Vous n'avez rien remarqué de spécial sur la planète ou à bord du vaisseau de l'amiral Nashita ?»
Mes poings se serrèrent, puis je me forçai à me détendre. « Vous n'autoriserez pas Arundes à se rendre dans la région des tombeaux ?»«
Pas dans l'immédiat.
Et l'évacuation des civils?
Au moins celle des citoyens hégémoniens?
Nous ne sommes pas en mesure de l'organiser pour le moment.
J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, puis je me ravisai. Je me contentais d'écouter le bruissement de l'eau sous le pont.
« Aucune autre impression, H. Severn, »
insista Gladstone.
« Aucune. »«
Très bien. Je vous souhaite une bonne nuit et des rêves agréables. Demain sera peut-être une journée difficile, mais je veux absolument trouver un moment pour m'entretenir avec vous. »«
Bonne nuit, » répondis-je. Je tournai les talons et m'éloignai rapidement en direction de l'aile de la maison du gouvernement où j'avais mes quartiers. Dans l'obscurité de ma chambre, je programmai une sonate de Mozart et pris 3 comprimés de tricéco-barbital. Il était probable qu'ils allaient m'assommer et que je dormirais d'un sommeil sans rêve où le fantôme de Johnny Keats et mes pèlerins encore plus spectraux ne pourraient jamais me trouver. Cela décevrait sans doute Mayna Gladstone, mais je n'en avais cure. Je songeais au personnage de Swift, Gulliver, et à son dégoût de l'humanité lorsqu'il était rentré du pays des chevaux intelligents, les Winnem. Sa propre espèce l'écœurait tellement qu'il était obligé d'aller dormir à l'écurie pour être rassuré par la présence et l'odeur des chevaux. Ma dernière pensée avant de m'endormir fut « Au diable, Mayna Gladstone, au diable la guerre, au diable le Reds tout entier, et au diable mes rêves. »